Can you hear me?
Puedes oírme?
Tu m'entends? Yes. Est-ce que quelqu'un m'écoute?
Je ne t'entends
What
pas.
C'est l'histoire d'une présence.
Mais regarde.
Mais là, c'est combien de temps? Demi-heure.
Oui.
Alors, regarde, la pluie, ça va jusqu'au fond. Hein.
Can you hear me?
Tu m'entends?
Vous m'entendez?
Je ne sais pas.
Quelqu'un entend
ma voix. Tu peux m'entendre?
Oui. Ça m'a fait une sensation de liberté et une sensation d'être exactement à ma place.
Maintenant.
Is anyone out?
Maintenant, je lance.
Ah, si tu veux, on lance l'enregistrement. Donc, j'étais en train de dire... je disais à Léa que moi aussi, je sentais des quintes de tout. et que c'était comme si le virus était en train d'envahir les studios. Pourquoi? Pauvre Léa. Pourquoi? Parce que Léa est un petit peu malade aujourd'hui, hein, et on salue son courage, sa bravoure d'être parmi nous, parce que la pauvre, elle a une grippe, mais quelque part, est complètement raccord avec le thème de l'émission aujourd'hui, puisque je voulais vous parler, dans ce nouvel épisode de Can You Hear Me, je voulais vous parler donc d'une sorte d'aventure que j'ai vécue ces dernières semaines. Et cette fois-ci, c'est pas du tout une aventure d'art, en fait. C'est quelque chose de complètement différent. Mais quelque part, vous allez voir, c'est lié. Je voulais vous parler donc de ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai dû, en fait... et c'est très rare, j'ai dû m'arrêter de travailler. Alors, c'est vrai que je comprends que pour certaines personnes, ça ne soit pas du tout un événement. Mais c'est vrai que moi, ça m'arrive rarement, finalement. Je suis toujours un peu dans un flux continu, en fait, de projets. Et c'est vrai que j'adore ça, quoi. Et là, j'ai dû faire une pause forcée parce que j'ai dû me faire opérer de quelque chose qui est pas du tout grave à la base, hein, mais c'est vrai que en fait j'ai dû faire une pause de plusieurs semaines. Et comme c'est quelque chose qui m'arrive pas du tout souvent, qui est vraiment très rare, en fait finalement c'était même la première fois que ça m'est arrivé. En fait, j'ai voulu parler de ça. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Et donc je voulais vous expliquer pourquoi.
Je dois répondre à la question?
Oui.
Waouh, c'est de la philosophie, carrément. Être entendu. Être écouté, c'est quelque chose d'un peu comme un miroir, c'est-à-dire qu'on voit que l'autre fait attention à nous et à ce qu'on est en train de dire.
Alors, donc le début de cette histoire, en fait, c'est un truc tout basique. Je me suis rendu compte que, à un moment donné, j'avais mal dans une partie de mon corps. Et en fait, j'ai choisi en fait tout simplement d'ignorer la douleur. Enfin, pas vraiment la douleur parce que bon, je la sentais, mais plutôt, on va dire, de laisser traîner. Hein. Voilà, j'ai laissé traîner. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit que en étant dans le déni du fait qu'il se passait quelque chose dans mon corps qui était douloureux, je me suis dit que ça allait certainement se réparer tout seul. en n'y pensant pas, en laissant les choses de côté et en continuant ma vie normalement, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, au moins 6 mois, mes proches commençaient à me dire « Non mais Carole, quand même, ça va pas, ton histoire, il faut absolument que tu ailles consulter, etc. » Et c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait quand même peut-être les écouter, quoi. Donc du coup, je suis allée voir un médecin généraliste. Et puis il a commencé à me... on a commencé à tester différentes choses pour, soigner, quoi. Ça a duré à peu près 6 mois et en fait ces remèdes, je sais pas comment dire, cette médication en fait n'a pas fonctionné et du coup je me suis orientée vers donc du coup des spécialistes hein, à l'hôpital. Alors c'est pas du tout ce qui m'arrivait, c'était pas du tout quelque chose de grave en fait en soi, mais c'était quelque chose de très embêtant et on va dire qui fait mal quand même quoi. Et qui peut quand même, voilà, si on laisse traîner, qui peut quand même dégénérer. Et donc, pour éviter que ça dégénère, le mieux, c'est effectivement quand même de consulter, quoi. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à avoir ce rendez-vous-là pour mon opération. Ce qui n'est pas forcément très simple psychologiquement, parce que voilà, c'est jamais très agréable. Hein. Et puis, on m'avait quand même dit que c'était une opération, après l'opération, en post-opératoire, il y avait quand même, on va dire, une phase qui pouvait être vraiment très, très douloureuse. Et qui faisait partie, c'était le médecin anesthésiste qui m'avait dit ça, qui m'avait dit « Bon, alors c'est vrai que c'est pas non plus parmi le top des plus grosses douleurs, mais on n'en est pas loin, quoi. » Voilà. Et la médecin qui allait m'opérer, qui était la chef du service, m'avait effectivement dit que c'était il y avait une phase après l'opération qui était vraiment très très douloureuse et qu'en général même ces patients avaient envie de l'étriper après l'opération tellement la douleur était horrible que ça durait comme ça pendant quelques jours et que donc après, ça passait.
Can you hear me?
I can hear you.
Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Tu es là?
Note à moi-même numéro 1. Souviens-toi du moment où tout s'est arrêté. Pas pour te faire peur, mais pour ne jamais oublier que ton corps ne ment pas. Il a été le premier à te dire la vérité que tu ne voulais pas entendre. Écoute-le avant qu'il crie. Et donc, je me réveille à l'hôpital. Tout se passe bien. Bien shooté, par l'anesthésiste. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans la salle d'opération, j'étais vraiment très stressée. Vraiment, je suis arrivée, j'étais très stressée. De stress. En fait, ça m'a fait une impression bizarre parce que je suis rentrée dans la salle d'opération et donc là, on m'a demandé de m'allonger. J'ai vu donc tous les médecins. En fait, il y avait pas mal de monde en fait dans la salle d'opération et je m'y attendais pas. Et en fait, d'un coup, paf, c'était un peu comme dans les films là, tout le monde commence à se mettre en place. On met des appareils, des trucs. C'était un peu stressant, quoi. Donc, je pense que effectivement, les médecins ont vu que j'étais un peu stressée. À mon avis, ils ont dû me mettre une dose de produit anesthésiant qui était assez forte. Mais bref, donc je me réveille. Mais d'habitude, dans mes souvenirs, je supporte quand même plutôt bien ce type de produits, quoi. Donc bref, je passe ma nuit à l'hôpital, tout va bien, et le lendemain je sors de l'hôpital, je rentre chez moi comme prévu, et je rentre chez moi, je vois ma sœur, on dîne un truc ensemble, vraiment post-opératoire, tout va bien, j'ai quasiment pas mal, encore sous effet des produits. Et puis, je me réveille en pleine nuit. Et là, ça va vraiment, mais vraiment pas bien, quoi. Une douleur qui me prend, mais un truc que je n'avais jamais vécu de ma vie. Une douleur vraiment horrible. Qui me réveille à 2h du matin, quoi. Et là, je vais dans ma salle de bain, je commence à avoir vraiment très, très, très mal. Mais une sorte de douleur qui est vraiment très aiguë, quoi. Une sorte de douleur qui traverse vraiment tout le corps. Quelque chose qui est vraiment... sur l'échelle de la douleur, on est sur du 12 sur 10, quoi. On est vraiment sur un truc... Je me dis tout de suite, je pense à ça, je me dis, mais en fait... j'ai jamais eu d'enfant, jamais eu de contraction, un truc comme ça. Mais je me dis, en fait, ça doit être à peu près ce type de douleur. Au niveau du fait que ça soit insupportable, quoi. J'ai tellement mal, en fait, que vraiment je m'accroche au mur, quoi. Je suis vraiment au bout du rouleau. Et en fait, la douleur, en fait, est tellement forte que je suis prête à m'évanouir, en fait, à chaque seconde, quoi. Et donc, je suis toute seule chez moi, donc c'est pas forcément effectivement la meilleure des configurations. Donc, évidemment, j'appelle les urgences qui me disent de doubler mes antidouleurs, qui prennent un peu le truc en charge, qui n'appellent pas d'ambulance, mais voilà, qui me disent si jamais vous nous rappelez, etc. Donc, effectivement, je prends une dose d'antidouleur qui est beaucoup plus élevée. Et donc, je reste éveillée comme ça jusqu'à 4h30 du matin, avec une douleur qui est toujours très forte, mais qui est quand même stabilisée. Donc, je me dis, bon, on ne va pas rappeler, etc. Mais donc, déjà, un premier truc, voilà, un peu compliqué. Et donc, finalement, je me rends compte au bout de quelques jours, parce que ma situation ne s'améliore pas, qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et donc, il y a cette complication-là post-opératoire. Et en fait, entre-temps, donc la plaie cicatrise, mais très doucement. Et le problème, c'est que ça a une incidence, parce que ça a aussi une incidence, en fait, toute cette opération sur la manière dont je me nourris. Et en fait, c'est très compliqué, parce que je commence à, on va dire, moins manger. Et donc, du coup, en fait, en l'espace d'un temps qui est quand même assez réduit, quoi, je perds aussi beaucoup de force. Et donc là, effectivement, je commence à prendre conscience, pour la première fois de ma vie, il faut quand même le dire, de la fragilité, en fait, de mon corps, quoi. Parce que je me sens vraiment, je me sens partir en termes d'énergie. Alors, c'est vrai que pour moi, c'est difficile, parce que... comme je suis quelqu'un, comme dit précédemment, de plutôt très énergique et très volontaire, c'est vrai que de sentir mes forces qui m'abandonnent, d'un coup, ça me fait vraiment bizarre, quoi.
Est-ce que quelqu'un m'écoute ?
Est-ce que quelqu'un entend ma voix ? I don't know.
Note à moi-même numéro 2. Tu n'as rien perdu en ralentissant. Tu n'as pas pris de retard. Tu as juste retrouvé la ligne de fond, là où ta présence recommence. Ce que tu as fait pendant ces jours immobiles, c'est respirer. Et respirer, c'est faire de la place pour revenir.
I'm listening.
Je me sens coincée dans une sorte de situation qui dégénère un peu, quoi, en fait, en quelque sorte. Et je me dis, mais en fait, il y a un mois, enfin, il y a trois semaines, même pas, j'étais à New York avec mes pancartes, mes trucs, ma performance. Je regarde les photos, je me dis, mais c'est incroyable. Je suis au bout du rouleau, je suis blanche, je suis livide, j'ai des douleurs de dingue, je m'accroche au mur pour un truc, en plus, en quelque sorte, une opération, même s'il fallait en passer par là, que j'ai un peu voulu aussi. Enfin, donc en fait, je m'en veux, je me dis, est-ce que j'aurais dû la faire? Même si, enfin, il n'y a pas à se poser ce genre de questions, parce qu'évidemment, il fallait le faire. Mais c'est vrai qu'en fait, je prends conscience de la fragilité de mon corps et je me dis, mais en fait, c'est fou comme on peut passer d'un état où en fait, tout va bien, en quelque sorte, on est dans un corps qui est quasiment en pleine forme, à un corps qui est alité et faible, vraiment très faible, quoi. Donc la situation n'est pas top, quoi. Et un soir, j'ai en fait toutes mes journées sont ponctuées avec des sortes de crises où j'ai justement des crises comme ça de douleur qui durent entre, on va dire, 1 heure et 2 heures, 2h30. Donc en fait, c'est très long, hein, parce que donc je ressors de ça complètement épuisée, en fait, quoi. Avec ces espèces de spasmes, en fait, de douleurs, en fait, qui me traversent pendant tout ce temps-là, quoi. Et donc, je me retrouve aux urgences, je me retrouve à l'hôpital là où est suivi mon dossier, et là, j'en suis à un stade où, en fait, au bout du deuxième jour à l'hôpital, pour marcher, en fait, je suis obligée de me faire aider par l'infirmière, quoi. Donc je suis vraiment faible, quand même, quoi. Et surtout, je commence à me dire, mais je ne vais pas m'en sortir, quoi. Enfin, il y a un moment où, en fait, on sent qu'il y a ces forces qui s'en vont. Alors, je suis pas non plus... j'imagine qu'il y a pire, quoi. Mais franchement, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et surtout, psychologiquement, je commence à me dire, je ne vois pas, en fait. Étant donné que les choses ne s'améliorent pas, au bout de... on était au moins à... Je sais pas, on devait être à 10 jours, quoi. 8, 9 jours, un truc comme ça. Ça paraît rien à l'échelle d'une vie, hein, mais c'est vrai que c'est très très long. En termes de souffrance, c'est très très long. Et donc, je commençais à me dire, mais non, mais là, ça va être chaud, quoi. Enfin, genre, je me voyais pas remonter la pente. En fait, c'était marrant parce qu'il se trouve qu'il y avait une dame à côté de moi qui était dans la même chambre. Une dame. Et en fait, elle était là pour un truc complètement différent. Et en fait, elle avait une famille avec des enfants et tout. Et puis, je crois que c'était sa... Je me demande si c'était pas sa sœur ou une amie proche à elle qui est venue. Et en fait, quelque part, c'était marrant parce qu'on discutait beaucoup toutes les deux, du coup, dans la journée. Parce qu'en fait, mais elle aussi, elle avait un truc de dingue en termes de douleur. Et donc, on commence à faire connaissance, à discuter toutes les deux et tout. Et en fait, c'est marrant parce que je me dis, ah bah tiens... Enfin, ça me vient, pendant que je suis à l'hôpital, je me dis, ah bah tiens, parce que je comprenais pas ce que je foutais là. Je me disais, mais comment c'est possible? Ça n'a pas de sens. Comment c'est possible que je me retrouve dans cette situation? Enfin, j'essaie un peu de trouver un sens au truc, parce que je me disais quand même, c'est... Enfin, même si, est-ce qu'il y a un sens à trouver à ça, je ne sais pas. Mais je me disais, c'est quand même... Enfin, c'est un épisode qui est étrange dans ma vie, quoi. Je sais pas, intuitivement, comme ça, j'essayais de chercher du sens. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré cette femme, je me suis dit, ah tiens, est-ce que c'est pas pour ça que je suis là? Et donc, je commence à discuter avec elle et tout. Trop sympa. À un moment donné, il y a ses enfants qui viennent la visiter. Trop sympa et tout. Et puis, à un moment donné, il y a une dame, je sais plus si c'était une copine ou quelqu'un de la famille qui arrive. Super sympa et tout. Et puis, à un moment donné, on commence à, donc, on discute, je lui présente, moi, ce que j'ai, etc. On en discute. Elle me dit, ah oui, non, mais je vois et tout. Elle me dit d'accord et elle me dit, non, mais tu sais, nous, on est très religieux. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je tente un truc? Et alors, je dis, bon, bah, franchement, moi, là où j'en suis, de toute façon, je suis tellement au bout du rouleau. Toute aide est la bienvenue. Et en particulier, toute aide, même non médicale, tout médical. Moi, je prends tout. Et en fait, trop chou, elle commence à s'avancer vers moi et elle me met les mains sur une partie, sur la partie, en fait, qui a été opérée. Elle me dit, elle commence à faire une prière. Et franchement, c'était un moment qui était un peu suspendu parce que j'ai l'impression qu'au moment où elle fait ça, il se passe vraiment un truc, quoi. J'ai l'impression qu'il se passe vraiment un truc. Bah déjà, en fait, il y a sa chaleur à elle humaine, son énergie. Et en fait, quand elle le fait, elle est vraiment très impliquée dans ce qu'elle dit. Enfin, en fait, c'était hyper fort, quoi. C'était hyper fort. Et en fait, ça m'a fait vachement de bien. Alors, je ne sais pas si c'est psychologique ou pas, mais c'est vrai que c'est. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir à un moment donné comme une perspective de solution qui s'entrouvrait à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le fait qu'elle essaie de, je sais pas, me donner son énergie ou son soin ou son attention, mais ou peut-être tout ça à la fois. Mais à ce moment-là, c'est vrai que j'ai ressenti un truc et je me suis sentie vraiment soutenue et vraiment aidée. Note à moi-même numéro 3. Tu es plus forte quand tu reconnais ta vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une forme de vérité. Ce jour-là, tu as compris que ton ambition et ton corps ne sont pas de forces séparées. Ils doivent marcher ensemble, sinon tout s'écroule. Et puis bon, finalement, donc je quitte l'hôpital. Et donc là, je rentre chez moi. Et puis finalement, mes parents décident de me rapatrier chez eux parce que ils me disent non, mais là, maintenant, on a compris que voilà, tu voulais rester toute seule et essayer d'affronter les choses. Très bien, pas de problème. Mais là, en fait, on va passer au stade où on va pas te laisser toute seule parce que là, ça va pas. Et donc du coup, je vais chez mes parents qui prennent vraiment soin de moi, qui trouvent des solutions vraiment adéquates en fait. Par rapport à ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'au bout de 3-4 jours, c'est pas du tout réglé, quoi. La situation n'est pas du tout réglée. Et puis, un soir, je suis vraiment comme ça, voilà, allongée sur le canapé, toujours mal, etc. Et puis, là, mon père commence à dire, bon, bah, on va retourner aux urgences. Enfin, là, c'est vrai que ça s'améliore, mais bon, c'est pas non plus ouf, quoi. Enfin, on n'est pas du tout au bout du tunnel, quoi. Et là, je m'allonge et tout. J'étais vraiment très fatiguée. Et en fait, d'un coup, dans mon demi-sommeil, entre guillemets, ou je sais pas, dans ma détente, quoi. Et là, vraiment mal, je commence à dire... Je commence à me dire, d'accord, bon, bah alors, je suis pas bien. Je me sens vraiment au bout du rouleau. Donc, en fait, j'ai vraiment besoin d'aide. Et je commence un peu à réclamer de l'aide, en fait, quoi. Et donc, et là, je me souviens très bien d'avoir dit non, mais franchement, si vous voulez, il n'y a pas de problème, on arrête tout. Si jamais vraiment j'ai quelque chose à apporter en tant qu'artiste, si jamais vraiment je suis l'artiste de la décennie, si jamais vraiment ça vaut le coup, je veux bien sortir de là en fait. Mais si vraiment je le suis pas, vraiment laissez-moi partir, il y a pas de problème. Allez-y doucement, mais sûrement il y a pas de souci. Écoutez, c'est pas grave. Ce que je devais apporter sur cette terre, finalement, ça serait peut-être pas si important. Bon voilà. Et donc vraiment, je me souviens vraiment de formuler ça. Et je commence à dans cet état un peu de demi-sommeil, à sentir comme une sorte de chaleur en fait autour de moi. Et je tombe dans une espèce de semi-endormissement, on va dire, quoi. Mais vraiment très, très léger, un truc vraiment très léger. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais peut-être, je sais pas, 5 ou 10 minutes, quoi. Et donc, de ça, je me réveille. Et en fait, alors dans mes souvenirs, c'était moins d'une heure après, mais je pense que c'était à peu près une heure, mais je pense que c'était beaucoup moins, en fait. Il y a eu une amélioration de la situation qui était vraiment... évidente, quoi.
Est-ce que je compte pour toi? Est-ce qu'on est connecté?
Tu m'entends? Est-ce que tu es là?
Donc voilà. Donc je suis sortie de là comme ça, et c'est vrai que je me suis rendu compte tout au long de cette de cette épreuve, enfin de ce moment-là, quoi, post-opératoire, avec les aléas que j'ai rencontrés, que j'avais vraiment qu'une idée en tête, et qu'un regret, en fait, c'était vraiment d'être immobilisée, de me sentir immobilisée et de ne pas pouvoir continuer mon activité artistique, quoi. Et en fait, j'avais vraiment le regret de me dire je suis dans l'attente que les choses se remettent en place, et si les choses ne se remettaient pas en place, bon, c'était pas non plus d'actualité du point de vue des médecins, mais moi, en termes de ressenti, je me posais vraiment la question, quoi. Et c'est vrai que j'avais vraiment ce truc là en tête de me dire, mais en fait, ça serait vraiment dommage que je puisse pas aller jusqu'au bout de ce que j'ai envie de faire, artistiquement parlant, parce que c'est vraiment ça qui m'anime, quoi. Et donc tous les jours, je me disais, quand est-ce que je vais pouvoir retrouver des forces pour pouvoir faire tout ça. Et je me suis vraiment rendu compte de l'importance de ce que ça avait pour moi. Enfin, je le savais déjà, mais c'est vrai que on va dire que j'ai l'impression que dans les situations difficiles de la vie, on a tendance aussi peut-être à se concentrer sur l'essentiel. Et en tout cas, j'ai remarqué que ce qui m'était venu, c'était vraiment ça, quoi. Et donc, c'est vrai qu'à l'hôpital, j'ai aussi pensé à toutes ces personnes qui avaient des accidents ou qui devaient subir des opérations ou des maladies qui étaient bien moins anecdotiques que moi, ce que j'ai traversé. Et en fait, j'ai pris conscience, je crois, à ma toute petite échelle, du courage et de l'énergie que ces personnes ont, en fait, pour rester debout et parfois se battre pour avoir retrouvé une vie normale pendant des semaines et des mois quand c'est possible. Et franchement, en marchant dans ces couloirs de l'hôpital avec l'infirmière, je me suis dit, j'ai pensé à toutes ces personnes qui se battent tout le temps, qui sont en rééducation ou qui luttent contre la maladie et tout. Et franchement, c'est vrai que je profite un peu de ce temps d'antenne-là pour quand même leur dire bravo.
Je suis là. J'écoute.
Oui, je t'entends.
Conclusion. Ce jour-là, j'ai compris que tout peut s'arrêter. Et que c'est justement pour ça que je veux continuer. Pas plus vite, pas plus fort. Juste plus reconnaissante et plus vraie. Merci d'écouter Can You Hear Me? Prenez soin de vous et joyeuses fêtes! Can you hear me?
Can you hear me?
Une création sonore de Carole Pelé.
A sound creation by Carole Pelé.
Enregistrement et mixage.
Next by Eléa Cor.
Habillage sonore.
Clémentine Brien.
Avec les voix de
Julie Baird Smith,
Daniel Barbusic,
Thibaut Kerr,
Annabelle Dubois-Gros,
Claire Lestan,
Zoé Meyer
et Anna Zaragoza.
C'était Can You Hear Me?
Retrouvez les épisodes sur Radio Campus Radio Paris et partout où vous écoutez vos podcasts.
Thank you for lending
Merci d'avoir tendu l'oreille. Bisous.
Bisous.